des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Marie Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Marie Montpetit.
Parmi les gens qui vont arpenter et qui arpentent au quotidien les couloirs de l'Assemblée nationale, évidemment, il y a les journalistes. Avec nous pour en parler, Alain Laforêt, correspondant à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Allô, Alain.
Bonjour, Marie.
Bonjour. Alors, ça va être des journées très chargées qui s'en viennent. Alain, dis-nous donc, comment t'abordes ça? Comment ça se prépare un journaliste le matin avec tout ce qui déboule dans une journée à l'Assemblée nationale?
Ben, ce qu'on a hâte, c'est comme les chevaux là, qui sont prêts à faire une course. Là. Tout le monde a le pied sur la ligne, puis hâte que ça débute. L'élection est terminée depuis le 3 octobre dernier. On peut pas dire qu'on a chômé au cours des dernières semaines. Mais évidemment, lancer une législature, avoir des projets de loi, avoir la vision du gouvernement, c'est ça là, qu'on attend puis que tout le monde veut voir. Là. François Legault s'est retrouvé lors de la dernière législature dans une situation spéciale, gérer une pandémie où il y a eu 2 ans et demi là, où ça a été très difficile pour le gouvernement. Là, le virus est là, on vit avec, mais les opérations quotidiennes et les engagements doivent être mis en place. Puis ça, on va le savoir mercredi. Mercredi, parce que le discours inaugural, puis je pense que tout le monde attend le discours inaugural. La présidence, on s'entend, là, c'est pas mal réglé. Là. Ce serait une grosse surprise que ce soit pas Nathalie Roy, l'ancienne ministre de la Culture, qui soit nommée à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle a déjà eu l'assentiment et la bénédiction de son chef, François Legault, pour occuper cette fonction-là. Là, le discours inaugural, c'est les grandes priorités. Il va donner, entre autres, les orientations de chacun de ses ministres. Un gouvernement qui est un peu plus gros, c'est que ça, on a hâte de voir là, comment ils vont agir. Puis c'est toujours les mêmes. Là, lorsqu'il a fait, entre autres, son discours, souviens-toi, Marie, lorsqu'il a, entre autres, dit que l'éducation, c'est sa priorité en 2018, ça l'est toujours en 2020, et les problèmes en 2022, les problèmes sont énormes. Depuis 2 semaines, on présente des reportages à TVA, puis il y en aura un que je vous suggère d'écouter dimanche. Je fais un peu d'auto-promo au TVA de 18h dimanche. Soyez là, vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant qui sera présenté concernant l'éducation. Santé, économie, protection de la langue, culture, c'est têtes de liste, mais il y a plein d'autres problèmes au Québec à régler. Entre autres, tout ce qui concerne la crise inflationniste. Puis il y aura 2 projets de loi qu'on s'attend, peut-être même 3, que le gouvernement va déposer. Entre autres, un du ministre des Finances pour geler les tarifs gouvernementaux, puis un autre du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour régler le problème de la hausse des tarifs chez Hydro-Québec. Ça, c'est une erreur que le gouvernement a commise dans la dernière législature en tassant la Régie de l'énergie. Puis là, on est obligé de faire un projet de loi pour un peu revenir en arrière parce que l'inflation est allée trop galopante, beaucoup trop haute que ce qu'avait estimé le gouvernement lors de la dernière législature.
Ben, tu sais, je t'entends parler, Alain Laforêt, on a l'impression que c'est vraiment le rythme, tu sais, que la nouvelle, elle tombe le matin, puis c'est un peu ce qui va déterminer le reste de la journée. Mais là, j'entends que pour les 2 prochaines semaines de session parlementaire, tu as déjà une bonne idée comme journaliste aussi de certaines questions, de certains angles que tu vas aborder. C'est sûr que, comme tu dis, le fameux discours inaugural va venir mettre la table sur les priorités de François Legault, puis va venir certainement mettre le spotlight, comme on dirait en bon français, le faisceau lumineux sur certains ministres plutôt que d'autres. Mais mardi, là, toi, t'es prêt, tu vas être dans les couloirs, tu vas aller questionner certains ministres qui vont passer. On va commencer les mêlées de presse, ça va recommencer. Là.
Bon, on a surtout hâte que les ministres soient plus accessibles, parce que actuellement, oui, il y en a qui parlent, mais pas tous. Lorsque la session va reprendre, puis elle est courte, cette session-là, c'est 6 jours de période de questions, là. c'est la même situation que
2018. François Legault ouvre le Parlement pour le refermer aussitôt. Là.
Ben c'est terminé là le 9 décembre, puis ils vont revenir le 31 janvier 2023 dans le Salon Bleu là, pour se faire questionner. C'est le même scénario de 2018. Courte session parlementaire, les fêtes, mais en 2018, c'est un nouveau gouvernement, pas d'équipe, pas d'organisation. Là, on n'est pas dans la même situation. Il y a des nouveaux députés, il y a beaucoup de nouveaux ministres, mais ils font des choses à l'extérieur du Parlement. Les dossiers avancent, mais ils sont pas questionnés par les oppositions. Mais questionnés par les oppositions, ce sont pas beaucoup les oppositions. Là. Ils sont 35. Là. On a un gouvernement qui est très gras, à 90 députés. Ce qui fait qu'il contrôle la Chambre actuellement. Puis l'autre affaire qui va être intéressante à surveiller, en tout cas, ça, les journalistes, on a hâte de voir, les correspondants parlementaires, comment qu'est-ce qui va se passer, c'est le fameux serment au roi. Là. Le Parti québécois, mardi, ne pourra pas entrer dans le Salon Bleu parce qu'il y a eu une décision de l'ancien président, mais qui est toujours en poste jusqu'à mardi, François Paradis, qui leur a interdit l'accès au Salon Bleu. Est-ce que effectivement ils vont aller jusqu'au bout? Ben, s'ils n'ont pas prêté serment, la sergente d'armes va leur bloquer l'accès. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Puis, comme je le disais tantôt, autre projet de loi qu'on attend, et ça va être intéressant à suivre, probablement la semaine prochaine ou l'autre, c'est ce qu'on laisse entendre, c'est il y aura un dépôt de projet de loi sur le serment au roi. Donc, ça aussi, là, ça va être intéressant. Et c'est un
très intéressant
projet de loi
sur
Québec solidaire.
Ouais, ben
c'est
oui.
Le gouvernement qui va le déposer, ce fameux projet de loi-là sur le serment.
Absolument, tu as raison. Là. Mais tu sais, ça va être une nouvelle présidente qui va être en place aussi. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir. Est-ce qu'elle va endosser la décision de l'ancien président? On peut penser que oui. Là.
Ben,
mais c'est elle
oui,
qui va avoir l'odieux d'indiquer l'expulsion, finalement. Tu sais, on va voir si... bon, c'est Nathalie Roy, là, comme tu dis, on parle dans le livre, mais...
La présidence, on en parle beaucoup, là. T'sais, on dit François Paradis a pris la décision de... François Paradis a mis le sang, sa signature au bas d'une analyse faite par les juristes de l'Assemblée nationale. Faut pas se le cacher, là. Il y a une énorme équipe derrière la présidence. C'est pas nécessairement... Il s'est probablement appuyé sur des textes de loi, là. Il y en a qui l'ont accusé d'avoir fait de la partisanerie pour exclure le Parti québécois avant de quitter la présidence. Mais il faut que ça soit appuyé juridiquement.
Oui, c'est pour ça qu'on peut penser que la prochaine présidente va l'endosser, là.
Ben, ça serait surprenant.
J'ai une petite question pour toi, Alain Laforêt, comme correspondant depuis quand même quelques années à l'Assemblée. Tu sais, là, tu dis, c'est ça, les ministres vont être plus accessibles pour que les gens nous comprennent. C'est que là, à partir de la rentrée parlementaire, les ministres vont être physiquement à l'Assemblée nationale. Normalement, 3 jours par semaine. Là, ce sera 4 parce que c'est une session intensive. Ils sont obligés de se déplacer de la salle de caucus à la période de questions, de la période de questions à la salle du Conseil des ministres. Donc, ils sont un peu, ils sont accessibles. Il y a des points de presse tous les matins aussi. Il y a des mêlées de presse. Comment, comme journaliste, parce que vous avez tous votre style quand même assez différent. Comment on se prépare?
Décris donc mon style, Marie.
Ton style, écoute.
Qui était de l'autre côté et qui a déjà subi mes questions.
Moi qui ai déjà subi tes questions. Écoute, comment je décrirais le style d'Alain Laforêt? Premièrement, toujours souriant. Moi, je pense que ça, c'est une de tes grandes forces, mais c'est souvent la question assez assassine, assez très claire. Tu parles fort aussi parce que dans une mêlée de presse, il y a toujours ça. Là, c'est quand il y a 20-25 journalistes qui sont devant nous, c'est qui va être capable de faire passer sa question aussi. Toi, tu as un sens du timing, je trouve. Tu arrives à faire passer. C'est pas tant que tu parles par-dessus les ondes, c'est que tu arrives à la faire passer juste dans le petit moment, la fraction de seconde de silence entre une réponse et une question. Et elle est toujours très courte, elle est toujours très claire et elle est toujours très pertinente.
Et tu sais pourquoi les questions courtes, là, je vais dévoiler mes trucs à tous les ministres, les nouveaux ministres qui écoutent. Si tu fais une question courte, tu as peu de temps pour penser et penser à tes lignes. Parce que les ministres sont préparés par leurs équipes où on leur dit « vous devez passer tel message, tel message, tel message ». Et l'objectif, c'est d'essayer de sortir des lignes et d'avoir la véritable pensée de la personne. Il y en a. Au début, c'est difficile. J'en suis très conscient. Là, lorsque tu arrives dans cette machine-là, c'est énorme. Tu as le poids du ministère, tu veux pas faire de bourde. Donc, tu te fies un peu à ce que les gens de tes communications t'ont préparé. Et à un certain moment donné, ben là, la personne, lorsqu'elle est bien assise dans son fauteuil, ben va y aller avec ses idées. Là. et va défendre ses positions.
Alors, les nouveaux ministres en seront avisés. Alain Laforêt, correspondant à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Merci beaucoup, puis bonne rentrée parlementaire.
Merci.
Bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Marie Montpetit.
Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Donc, dans les gens qui se préparent pour la rentrée parlementaire, évidemment, il y a les formations, les députés de l'opposition officielle, de la deuxième opposition, de la troisième opposition. Pour en parler avec nous, Elsie Lefebvre, ancienne députée péquiste à l'Assemblée nationale et chroniqueuse et analyste politique à LCN et TVA. Allô, Elsie?
Allô, ça va bien?
Oui, ça va, toi?
Oui.
Donc là, rentrée parlementaire, c'est sûr que les groupes de l'opposition, les partis de l'opposition sont en train de se préparer. Comment on aborde ça? Comment on aborde ça, une rentrée parlementaire, quand on est député dans l'opposition?
Bien, c'est certain que c'est un moment de grande fébrilité, là, la rentrée, surtout. Bon, c'est un nouveau parlement, nouvelle législature, tu as des anciens députés, mais tu as aussi toute une nouvelle cuvée qui vont entrer au Salon Bleu de manière officielle pour la première fois. Donc, ça, c'est un moment vraiment émouvant, solennel pour un peu tout le monde et même pour les anciens. Parce que quand on quitte le Salon Bleu, là, tu sais...
On ne sait jamais si on va y revenir.
Exactement. Donc, même ceux là, qui sont dans des circonscriptions, des forteresses, il y a toujours un petit doute, un petit risque. Et donc, de recevoir l'appui de la population, ça vient, bon, consolider, donner une petite tape dans l'eau, puis de dire, OK, on repart pour un nouveau mandat. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fébrilité. Pour les oppositions en particulier, bien, c'est certain que, bon, là, c'est le moment aussi du gouvernement, du premier ministre. Donc, il va revenir, il va y avoir, bon, la nomination, on va choisir le président. Donc, ça aussi, il y a un décorum. Donc, en principe, là, c'est le député le plus ancien qui va prendre place. Puis, ensuite de ça, on va choisir le vrai président. Donc, bon, il y a un décorum par rapport à ça. Là. Le président va faire assemblant qu'il ne veut pas rentrer une fois qu'il va être nommé. Bon, donc, ça, c'est des moments... de la tradition parlementaire qui sont importants de garder. Et bon, les députés qui sont là pour la première fois vont le voir pour une première fois. Mais là, après, bon, le gouvernement va faire son discours inaugural. Donc, bon, on va présenter sa vision gouvernementale. Une vision, évidemment, bon, qui va être assez large parce qu'en principe, il va devoir couvrir là, les 4 prochaines années de son mandat. Puis, il va nous annoncer quelques priorités. Donc, il l'a déjà fait, le premier ministre, à l'occasion de la nomination de son conseil des ministres. Normalement, il donne certaines orientations, mais là, il le donne devant la Chambre. Et les oppositions, bien, c'est un peu la même chose. C'est qu'eux doivent se rattacher à l'actualité et donc à l'agenda gouvernemental, mais en amenant leur propre couleur. Donc, c'est un défi de rester finalement sur les thématiques, donc de ne pas avoir l'air complètement champ gauche, mais dans le même temps apporter sa propre couleur. Donc évidemment, il y a des défis différents pour le Parti libéral, le Québec solidaire et le Parti québécois. Puis bon, ben là, on a Éric Duhaime qui est un peu dans l'antichambre, qui va lui aussi devoir se positionner.
Si le fait, est-ce que il y a deux dynamiques. Il a imposé ses propres termes comme opposition, comme tu le dis, effectivement, chaque opposition, chaque parti a ses couleurs, mais il a aussi certainement essayé d'essayer d'identifier, si on veut, le talon d'Achille du gouvernement, ses points faibles, ses ministres qui sont peut-être un petit peu moins bien préparés, qui sont peut-être dans l'embarras cette journée-là sur des dossiers plus sensibles aussi.
Ben oui, et ça, c'est certain. Donc, c'est sûr que les oppositions, bon, là, on sort d'une campagne électorale. Donc, là, tous les partis ont fait un genre de de bilan, le post-mortem de l'élection. C'est quoi les thématiques qui ont fonctionné? Quelles sont celles sur lesquelles, bon, on a fait mouche ou on n'a pas été capable d'aller chercher l'adhésion de la population? Donc, bon, il y a des focus groupes, il y a des sondages, tout ça. Donc, les partis sont quand même orientés là, sur leurs forces et leurs faiblesses, mais également sur celles du gouvernement. Tu as tellement raison. Donc là, ça va être de voir, bon, lesquelles. Bon, c'est évident que, bon, toute la question de l'économie. Donc, ça, c'est sûr que c'est un thème que tous les partis vont vouloir chérir, la santé, évidemment. Puis ensuite de ça, ben chacun a ses priorités. Bon, le Parti québécois, ça va être l'identité, la langue française, l'immigration, tout ça. Bon, Québec solidaire va nous ramener certainement le logement, des trucs comme ça. Parti libéral, ben lui aussi, bon, sur les questions de pénurie de main-d'œuvre, l'immigration, bon, l'économie, la santé. Bref, tous ces thèmes-là vont être joués par tous les partis. Mais des fois avec une partition différente, mais c'est ça, c'est comment se démarquer. Moi, je pense que au
qui
moment
qui décide le matin là, dans le fameux dry run là, où le leader va s'asseoir avec ses porte-parole, va dire ben voici la stratégie aujourd'hui. Il y a 9 questions pour l'opposition. Nous, on en a 5, mettons l'opposition officielle. Là, je sais pas comment ce sera réparti exactement, mais de déterminer ben voici toi tu vas poser la première, la deuxième, la troisième, et voici les thèmes, les sujets, puis voici ce qu'on essaie d'aller rechercher dans le fond.
Ben exactement. Donc une fois là que le discours inaugural va être fait, bon moi je recommande pas aux partis d'opposition là d'être tout de suite là sur leurs grands chevaux. Faut laisser un peu la chance aux coureurs, mais rapidement on va embarquer dans la mêlée. Puis comme tu dis, ben dans le quotidien, bon les élus se lèvent très tôt. Il y a des équipes de recherchistes, bon qui font la revue de presse, qui scannent tous les articles, voir bon est-ce qu'il y a quelque chose qui retrousse, est-ce qu'il y a un dossier qu'on n'a pas vu quelque part en région, un député qui va dire hey, moi dans ma région j'ai telle problématique. Et là c'est le leader qui agit. Le leader de l'opposition dans chacun des partis qui agit comme un peu le
chef d'orchestre.
C'est ça. Donc, c'est lui qui va faire les arbitrages. Évidemment, bon, il y a la question du chef. Donc, ça, c'est très important. Mais beaucoup d'efforts sur la question du chef avec ses relances. Donc, en principe, c'est supposé être le moment fort de l'opposition. C'est là-dessus que le parti d'opposition, en principe, va faire ses communications de la journée. Mais les autres députés, tout dépendant des dossiers qu'ils défendent, tout dépendant de l'actualité, ben vont se mettre à la suite là, de la première question du chef. Et donc, on va faire un genre de build-up, je m'excuse l'impression, l'anglicisme, pour essayer de mettre dans les câbles le plus possible le gouvernement. Puis chacun des partis va faire ça. Puis effectivement, à la période de questions, ben il y a un ordre donc préétabli. Donc on commence par une question du chef de l'opposition officielle avec une question complémentaire, une deuxième complémentaire, etc. Puis ensuite de ça, on passe à l'autre partie et tout ça. Bon, ça, cette déclinaison, l'ordre, on va la connaître prochainement parce que là, on n'a toujours pas d'entente entre les partis à l'Assemblée nationale là-dessus. Mais donc, c'est comme ça. Puis donc, tu te rappelles bien comme moi que bon, en arrière du président, donc il y a le trône, le président siège, et derrière, il y a les deux salles où il y a le gouvernement qui se prépare, parce que le gouvernement aussi vont préparer leur période de questions. Donc, les ministres vont être avec leur attaché de presse à bâtir leur dossier puis connaître leur argumentaire. Puis de l'autre côté, tu as une salle équivalente pour l'opposition. D'ailleurs, je me demande bien comment ils vont répartir ces espaces-là. Parce que
ça va être tout des choses à suivre. Je suis bien d'accord avec toi. Hey, merci beaucoup, ouais. Essie Lefebvre, chroniqueuse et analyste politique à SCN et TVA. C'était hyper intéressant.
Bonne session.
Merci, au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Là-haut sur la colline.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Marie Montpetit va vous le dire.
Alors, un des rôles hyper cruciaux des gens qui travaillent dans l'ombre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils sont nombreux, c'est le rôle, entre autres, d'attaché de presse, d'attaché politique qui accompagne les ministres. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie-Ève Doyon, qui est une ancienne attachée de presse et politique, qui a été sur la colline parlementaire de 2003 à 2010 avec trois ministres différents et qui est également analyste politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et fondatrice de Média Relations Publiques. Bonjour Marie-Ève Doyon.
Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, dis-nous, comment on prépare ça, un ministre à la veille d'une rentrée parlementaire?
Bien, dans le cas qui nous intéresse, en ce moment, il y a un nouveau gouvernement élu. Alors, c'est un autre niveau de préparation que uniquement une rentrée parlementaire qui se passe alors que le gouvernement est déjà en place depuis 2 ans. Puis il y a un certain nombre de choses liées à ça. Entre autres, il y a des nouveaux ministres aussi. Donc, préparer les élus, c'est d'abord les familiariser avec leur nouveau travail, avec leur mandat. Et chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, les ministres, ils ne sont pas du jour au lendemain imprégnés de la culture de leur ministère et de toute l'histoire de leur ministère. Ils doivent donc faire des rencontres qui sont parfois un peu fastidieuses avec les hauts fonctionnaires de leur ministère.
Et là, au moins, cette fois, ils vont avoir eu 1 mois et demi pour se préparer. Tu sais, quand tu parles de remaniement ministériel, des fois, moi, ça m'est arrivé là, d'être nommé ministre le jeudi, puis le mardi, tu es en chambre pour répondre aux questions des oppositions officielles. Là, au moins, ils vont avoir eu un mois et demi pour faire ces rencontres-là avec les sous-ministres.
Et souvent, un élu devient ministre le jeudi et le vendredi matin, on l'invite à commenter sur son nouveau ministère dans les médias comme s'il y avait une science infuse et que dans la nuit entre ta nomination et le lendemain matin, il y avait 800 pages de documentation qui étaient assimilées par le ministre.
Je te dirais même que dans certains cas, puis là, je te parle justement de tranches de vie. Tu vois, en 2017, quand il y a eu le remaniement ministériel, moi et certains collègues, on a été nommés ministres. On est sortis de notre assermentation. Donc, on venait de prêter serment au peuple québécois où on allait devenir, justement, moi, je devenais ministre de la Culture, des Communications, ministre responsable de la langue française. Et dans la demi-heure qui suivait, on était en point de presse en train de répondre à des questions sur c'était sur le déclin de la langue française, sur la culture. Écoute, ça faisait 30 minutes qu'on était ministre. Tu fais, bien, écoutez, je vais aller prendre connaissance de mes dossiers. Ça va très, très vite. Les gens ne le réalisent pas toujours, là, mais ça va vite.
Non, exactement. Les gens ne réalisent pas, puis ne réalisent pas non plus que le ministre qui est nommé ne savait pas la veille qu'il allait devenir ministre de ce ministère. Il n'a donc pas le privilège de se préparer pendant 5 jours avant son assermentation parce qu'il sait que les médias vont être à la sortie du Salon Rouge pour lui poser des questions puis lui demander « Hey, oui, c'est quoi votre position sur telle ou telle chose? » En politique, on a souvent une vision périphérique, hein, comme quand on conduit une voiture, on voit à droite et à gauche ce qui se passe, mais notre focus est beaucoup vers l'avant. Alors, les ministres qui sont en poste, ils se concentrent beaucoup sur leurs dossiers, ils sont au courant des dossiers des collègues, ils participent au caucus, mais ils ne sont pas des spécialistes de tous les dossiers. Alors, quand on change de chaise, on doit avoir un petit moment pour prendre connaissance des fins détails des dossiers qui nous sont confiés. En plus, quand on a un nouveau gouvernement comme celui qui vient d'être nommé, on a aussi des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, qui ont fait une campagne électorale, mais qui vont probablement, pour plusieurs d'entre eux, mettre les pieds à l'Assemblée nationale pour la première fois au lendemain de leur élection. Alors, ils ne connaissent pas non plus nécessairement le fonctionnement d'un ministère, le cheminement d'un dossier qui va passer souvent des fonctionnaires vers le bureau de la sous-ministre ou du sous-ministre qui va être retravaillé par le secrétaire général avant de se retrouver dans une chemise qui va monter au cabinet politique. Et là, les attachés politiques vont le regarder. Et s'ils jugent que le dossier est prêt, vont le faire progresser jusqu'au bureau du directeur de cabinet qui va le présenter au ministre pour que celui-ci ne passe pas son temps à voir des ébauches de documents et qu'il ait vraiment des informations à jour en main. Alors, c'est moins simple que de dire simplement, ben moi, je pense que telle chose est importante, on va faire ça comme ça. ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça.
Donc, comment on prépare, aussi à la fameuse mêlée de presse? Là, les journalistes, là, ils ont faim, là, ils ont hâte là, d'aller rencontrer justement ces nouveaux ministres. Ils vont certainement avoir plein de questions à leur poser dans les prochains jours. Comment on prépare un ministre pour qu'il soit prêt justement à répondre à un paquet de questions qui peuvent venir du champ gauche ou à l'actualité du jour même? Là?
Il y a d'abord, il y a des règles du jeu dont il faut que l'élu s'imprègne. Et ça, dans des boîtes de relations publiques, on fait ça aussi avec des clients qui font face à des crises. On les prépare à jouer le jeu des médias. On l'a vu, beaucoup des élus se sont cassés les dents dans des mêlées de presse. On se souviendra d'une sortie de Catherine Dorion, qui était députée de Québec solidaire à l'époque, où elle a dit « Mon Dieu, mais c'est violent, c'est presque de la torture, les lumières allume, puis on s'arrête. » Les élus doivent être préparés à ça. Ils doivent savoir que ce que certains appellent la meute des médias, là, mais que d'autres vont appeler les journalistes qui viennent dans une mêlée, un scrum, comme on le dit dans le métier. Mais les journalistes, ils ont un travail. Essayer d'amener l'élu à dire quelque chose. L'élu, lui, a un travail aussi. Il y a une vérité, il y a une réalité, et il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Il peut continuer à marcher. Et on doit préparer nos élus à ne pas avoir le syndrome du chevreuil dans les phares et de s'arrêter à toutes les fois que les lumières allument dans le corridor. Il y a des gens qui ont dans leur nature, à eux, la volonté de collaborer avec les médias. Mais quand ils passent, puis on l'a vu en campagne électorale, là, parlons-en, entre autres, un gars qui s'est présenté pour le PLQ, qui s'appelait Mathieu Gratton, qui est un humoriste, puis qui s'est fait prendre à ce jeu-là parce qu'il a l'habitude de répondre à tout et à rien du tac au tac en faisant des blagues, alors que quand on tombe dans une joute politique, tous les propos ont une portée sur la vie des citoyens. C'est plus juste les gens qui s'intéressent à toi, c'est tout le monde qui regarde. Alors, les propos doivent être pensés, doivent être réfléchis.
Des fois, c'est ce qu'on appelle la fameuse langue de bois des politiciens, mais la ligne est mince, des fois, entre cette langue de bois-là puis dire ce qu'on pense, là.
Exact. Il y a une langue de bois, puis il y a juste à côté de la langue de bois, il y a une authenticité qu'on peut travailler. Puis c'est pas vrai que du jour au lendemain, on devient porte-parole. Ça se travaille, c'est un métier, ça s'apprend, c'est un muscle qui s'exerce. Alors, quand on va travailler avec les élus, souvent, on va les prendre par surprise. On va leur poser des questions juste dans leur cabinet pour voir comment ils vont répondre. Puis là, on va dire « Ah, manqué, il fallait pas répondre à celle-là. » Ou on va trouver une meilleure façon de répondre sans répondre avec de ce que certains appellent le langage de la machine.
Ce qu'on appelle des fois le « hot seat » aussi, là, justement, une espèce de mise en contexte, une pratique, voir comment on répond, juste donner la réponse à la question, pas plus large non plus.
Puis, on devient un peu, quand on devient ministre, on devient un peu un témoin dans un procès. Là. C'est notre procès tous les jours devant les médias, puis on doit trouver une façon de toujours dire la vérité, mais de dire la bonne vérité. Puis des fois, on a envie de dire des choses qui sont parfois sub judice parce qu'il y a des dossiers devant la cour, d'autres qui sont des dossiers qui sont pas encore prêts à annoncer. Et travailler l'authenticité de l'élu, c'est l'aider à être capable de dire à un journaliste, écoutez, j'aimerais beaucoup vous répondre en ce moment, mais d'une part, je n'ai pas toutes les informations en main, je vais vous revenir, mais d'autre part, il y a une annonce qui s'en vient à ce sujet, et c'est à ce moment-là qu'on va vous en parler. Si les élus étaient mieux préparés pour faire ces choses-là dès le jour 1, on aurait moins l'impression qu'ils essayaient de louvoyer, qu'il y avait une ligne de parti qui les empêchait d'être authentiques. Il faut vraiment aider l'élu à trouver en lui sa façon à lui d'être vrai et de dire les choses qu'il peut dire sans pour autant aller plus loin que ce qui est déjà, tu sais, dans les cabinets politiques, on va dire souvent, c'est pas attaché. On a une bonne idée, on la travaille, mais on n'a pas parlé avec les intervenants qui doivent nous répondre. Quand on est dans le milieu de la santé, annoncer quelque chose sans l'avoir déjà discuté avec les CIS, les CIUS, c'est très difficile parce qu'on, en voulant satisfaire le journaliste, on crée de l'insatisfaction chez nos partenaires principaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en amont.
Mais c'est hyper intéressant et j'espère que les nouveaux ministres t'écouteront. Marie-Ève Doyon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est hyper captivant. Merci beaucoup. Donc, ancienne attachée de presse, ancienne attachée politique, analyse politique au Journal de Québec, au Journal de Montréal, fondatrice de Média Relations Publiques. Marie-Ève Doyon, je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Marie.
Bye.
Cube Radio.